Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Avec notamment Fabrice Denis, professeur, chercheur associé au CNRS, expert en IA et médecine de longévité. Stéphane Résimont, médecin spécialisé en médecine intégrative, expert en hormonologie et micronutrition. Le Nutri Talk Gala, samedi 13 juin, à l'Élysée Biarritz, à Paris. Programme complet, intervenants et renseignements sur nutritalkgala.fr.
Cette émission vous est présentée par le laboratoire familial Lepivitz, votre expert en nutraceutique et fabricant de compléments alimentaires clean à la pointe de la micronutrition.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
Vous avez choisi d'écouter Nutri Radio, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toutes et à tous de nous écouter. Si vous souhaitez aller plus loin, soutenir Nutri Radio, rendez-vous sur nutritv.fr puisque vous allez pouvoir y retrouver des masterclass santé de référence conçues, animées par des experts, ainsi que des émissions et des documentaires exclusifs. Une nouvelle masterclass d'ailleurs est mise en ligne tous les 15 jours pour approfondir vos connaissances et rester surtout à la pointe de la santé intégrative. Olivier Coudron, docteur Coudron, bonjour.
Bonjour Beline.
Comment allez-vous aujourd'hui ?
En pleine forme.
Ça s'entend, ça fait plaisir. Alors on va dire merci à notre partenaire Lepivitz, sans qui nous ne pourrions pas vous proposer ces contenus chaque semaine. Lepivitz, entreprise familiale belge spécialisée en micronutrition avec plus de 30 années d'expertise dans le développement du nutraceutique. Alors aujourd'hui, docteur Coudron, avant de parler de comportement, stress, burn-out, etc., est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce que c'est un neurotransmetteur ? Pourquoi la neuronutrition s'intéresse particulièrement à leur équilibre ?
Très intéressant, ces neurotransmetteurs. Le mot détermine bien la fonction. Ça transmet l'information entre deux neurones. Les neurones sont les cellules fonctionnelles du cerveau. Et en fait, ce qui est très intéressant sur un plan symbolique, c'est que les neurones ne se touchent pas. Il y a des espaces qu'on appelle des synapses entre deux cellules. Et pour que finalement, notre cerveau, c'est quoi ? C'est du vide. Nous sommes pleins de vide. C'est très bouddhiste de dire cela, hein. La vacuité, l'esprit est vacuité, on dit dans le bouddhisme. Eh bien, c'est la même chose en neurosciences. On dit que finalement, le cerveau, c'est plein de vide. Mais comment le cerveau va faire des transmissions d'informations et finalement créer un influx nerveux dans la deuxième cellule, dans le second neurone? C'est en émettant un petit messager chimique. Il est donc produit dans un premier neurone, libéré dans l'espace vide, il communique, il se déplace et il s'accroche à des boîtes aux lettres, des récepteurs post-synaptiques après la synapse, et déclenche alors l'influx électrique, l'influx nerveux. Caractéristique de ces neurotransmetteurs, ils sont éphémères, ils sont instantanés, immédiatement détruits après leur action, et ça, c'est un processus qui nécessite, on l'aura bien compris, une synthèse parfaite et adaptée de tous nos neurotransmetteurs.
Est-ce qu'il existe réellement des profils comportementaux associés à des dominances, des déficits de certains neurotransmetteurs ? Et si oui, quels sont les marqueurs les plus pertinents ?
Alors, il existe des liens, oui, mais les connaissances et la vision qu'on a adoptée au cours de ces 50 dernières années et l'évolution de ces paradigmes, de ces modèles, vraiment considérable. On va dire qu'il y a quelques années, on s'intéressait, et notamment, c'est les travaux d'un pionnier dans le domaine, Robert Cloninger, un psychiatre, un neurobiologiste américain, qui a beaucoup étudié les liens entre la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine et des comportements. Alors, c'était les débuts des neurosciences, hein, on est là il y a quand même quelques décennies, et on a cru, un peu simplement, je vous dois bien dire, naïvement aussi, que on pouvait faire un lien entre la dopamine et la recherche de la nouveauté, l'exploration, ou la sérotonine, et l'évitement du danger, le retrait, la prudence, ou la noradrénaline, et les voies de la recherche du plaisir ou de la satisfaction. Alors, c'est vrai dans les grandes lignes, et c'est totalement faux, parce qu'on ne peut pas attribuer à un neurotransmetteur un comportement. Les choses sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus merveilleuses que cette simple histoire. aujourd'hui, quand on répond à cette question, Meline, on peut dire que les neurotransmetteurs, c'est une pièce du puzzle. Il faut comprendre comment ils fonctionnent et comment ils interviennent dans de très nombreuses voies, des voies qui elles-mêmes sont impliquées dans les comportements. Et ceci nous amène à un gros mot, je suis désolé, mais on appelle ça les modèles biopsychosociaux.
Oh wow.
Le modèle biopsychosocial, il y a trois mots. Ça veut dire qu'il y a, pour comprendre, un des modèles de compréhension de nos comportements, c'est la biologie, hein, le côté bio. Et là, les neurotransmetteurs, les vitamines, les oligo-éléments, la neuro-inflammation expliquent beaucoup, beaucoup de choses. C'est le modèle bio. Psycho, c'est autre chose. C'est qu'on n'explique pas tout par la chimie, mais aussi par la psychologie. Ça, ce sont les fonctions. Comment on a utilisé, comment on interprète la vie. Hein, c'est l'éducation, ce sont les lectures de l'univers. Enfin, comment je comprends et j'interprète finalement mes événements de vie, comment je les engramme dans mon cerveau. Ça, c'est le modèle psycho. Et social, c'est que nos comportements, eh bien, ils sont intégrés dans un réseau de communication avec les uns, avec les autres, avec la culture également, hein, qui influence les comportements. Et donc aujourd'hui, quand on parle de comportement, on doit avoir une vision très élargie, transversale, bio, psychosociale. Et le côté bio, en grande partie, c'est vrai, ce sont les neurotransmetteurs.
Et quels signaux vous mettent sur la piste d'un déséquilibre neurobiologique, l'impulsivité, les troubles de l'attention, je parle aussi de l'anxiété, de recherche excessive de récompense aussi, ça peut rentrer là-dedans?
Alors, aujourd'hui, avec ces quelques années de recul, hein, depuis les premiers modèles de clonage, ce qu'on peut attribuer comme de façon assez constante, c'est des dysfonctions de la sérotonine, par exemple, avec des comportements compulsifs, des comportements pas de boulimie, mais de compulsion. Notamment, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui a une grande influence plutôt dans la deuxième moitié de la journée sur nos comportements. Vous imaginez que les neurotransmetteurs, ils agissaient sur beaucoup de fonctions neuropsychiques. Hein. La sérotonine, c'est aussi important dans les fonctions cognitives, intellectuelles, que les comportements dont on parle aujourd'hui, ou par exemple le sommeil ou la température. Mais sur les comportements, une dysfonction de certaines voies de la sérotonine se manifeste très fréquemment par de la compulsion, l'envie soudaine dans l'après-midi de sucre. Hein. Le sucre, si on en consomme, va favoriser pendant une vingtaine de minutes, une demi-heure, une heure, la synthèse de ce neurotransmetteur dans le cerveau. Et donc, quand on manque de sérotonine, un des premiers symptômes que je repère souvent, c'est vers 4 heures, 5 heures, 18 heures, un besoin de manger des sucreries. Mmh. Et tout de suite après, je me sens mieux. Voilà, ça, c'est plus calme. L'énervement aussi, l'irritabilité, la colère. Mmh. Un petit signe, Ombeline. L'impatience, l'incapacité à prendre son temps, à prendre du recul. Voilà des petits signes évocateurs de troubles de la sérotonine dans nos comportements, c'est vrai.
On va passer au stress chronique, burn-out aussi, système neurochimique. Alors quand on parle de stress chronique, quels sont selon vous les neurotransmetteurs les plus impactés? Dopamine, alors j'ai vu aussi GABA, je ne sais pas trop ce que c'est, j'ai fait mes recherches mais je ne sais pas ce que c'est, la sérotonine, glutamate.
Ah oui, eh bien vous les aviez cités un peu dans le désordre, mais c'est très bien,
oui.
C'est très bien. Alors déjà un stress chronique, on va situer vraiment dans un stress chronique répété, qu'on a du mal à gérer, une situation qui est prégnante comme ça. Alors dans les premières manifestations, on a clairement décrit et c'est constamment retrouvé une diminution progressive de la dopamine. Le stress chronique se caractérise par une augmentation d'hormones qui s'appelle le cortisol. Et ce cortisol va être un gros inhibiteur de la production de la dopamine. C'est le premier neurotransmetteur impacté. Effet clinique, eh bien, la dopamine va être impliquée vraiment dans plutôt des fonctions cognitives que comportementales, plutôt l'attention, la mémorisation, l'envie, la motivation. Voilà. Et donc, quand on est très stressé, premier symptôme, c'est qu'on est moins motivé pour changer. On est moins attentif à l'école, je pense aux étudiants par exemple. Ou alors, on a une petite démotivation émotionnelle. Une petite déprime pour dire clairement les choses. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième neurotransmetteur, les seconds neurotransmetteurs qui sont affectés par les stress chroniques, en effet, c'est le GABA. Donc le GABA, c'est un neurotransmetteur extrêmement important dans tout le cerveau. mais qui est très impliqué pour l'équilibre, pour le calme par rapport au glutamate. C'est un sédatif, on va dire. D'accord. Le glutamate est un excitant et le GABA, c'est un peu notre anxiolytique. Hein. Les anxiolytiques médicamenteux qu'on utilise en psychiatrie, ce sont des médicaments qui jouent sur le GABA, sur les récepteurs plus exactement au GABA. Donc, ce GABA va être moins bien synthétisé dans le stress chronique et ça donne tout de suite de l'anxiété. Et plus tardivement, en général, on va être affecté sur une autre grande famille de neurotransmetteurs qui porte un nom un peu bizarre, qui s'appelle les indolamines. Alors, c'est surtout la sérotonine hein, qui va petit à petit être affectée. Donc, on aura moins de patience, moins de recul, moins de stabilité émotionnelle. Et puis, plus tardivement, là, on est déjà dans des stress très avancés, on observe une diminution d'un neurotransmetteur très particulier qui fait l'objet d'énormément de travaux aujourd'hui et qui est la mélatonine. La mélatonine, c'est à la fois un neurotransmetteur, en même temps ce qu'on appelle un neuromodulateur, il module les autres et c'est en même temps une molécule hormonale. Donc c'est une molécule qui a énormément de fonctions dans l'organisme. C'est une molécule de la nuit et hélas, c'est vrai qu'avec les stress chroniques, apparaît petit à petit une perturbation de la production ou de la fonction de la mélatonine.
On va y revenir dans un instant. Docteur Coudron, on fait une petite pause ?
Avec plaisir.
Ne bougez pas.
Soutenez votre bien-être mental et votre cognition avec les compléments alimentaires Lepivitz. Lepivitz, votre laboratoire familial expert en nutraceutique, vous propose des produits Clean Label aux ingrédients brevetés et soutenus par la science. Recommandés par les professionnels de santé, nos compléments allient qualité et éco-responsabilité. Nourrissez votre esprit pour une cognition optimale avec Lepivitz. Pour plus d'infos, rendez-vous en pharmacie ou sur lepivitz.fr. Lepivitz, votre allié pour un esprit clair et serein.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
De retour sur Nutri Radio avec Olivier Coudron, docteur Coudron. Alors, on parle de stress chronique, de burn-out, de système neurochimique. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui glisse vers le burn-out ?
Ah, très bonne question. Eh bien, justement, on observe petit à petit ces étapes que j'évoquais. Mmh. Au départ, pendant quelques mois, c'est plutôt des troubles de l'attention, de la motivation, de la fatigue. On est vraiment dans le stade de la dopamine. Et quand on commence à avoir des investissements émotionnels perturbés, un manque de recul, et puis globalement, les troubles de l'humeur un peu complexes, des troubles du sommeil, on glisse petit à petit vers cette fameuse burn-out, en fait. Alors, la mélatonine est aujourd'hui au cœur de ces études, justement. On a des hypothèses, d'une part, et des certitudes, d'autre part. La certitude, c'est que pour passer d'un stress chronique qu'on arrive malgré tout à supporter pendant des mois, voire des années, et aller vers le burn-out, il se passe une rupture. Et cette rupture, elle est moins liée aux neurotransmetteurs que à l'équilibre entre deux hormones que j'évoquais, le cortisol, d'une part, et un autre neurostéroïde, une autre hormone qui a un impact sur le système nerveux, hein, qui s'appelle la DHEA. La DHEA, qui n'est pas le DHA, hein, ce qui n'est pas l'acide gras oméga-3. Alors, c'est un équilibre très particulier. On a besoin de cortisol pour répondre au stress, mais trop de cortisol, ça va altérer notre cerveau, ça va perturber l'hippocampe, ça va perturber les neurones, ça va diminuer les neurotransmetteurs. Mais nous avons en même temps que nous fabriquons du cortisol un antidote. L'antidote, c'est la DHEA, dehydroépiandrosténdione. Eh bien, au bout d'un certain nombre de mois ou d'années parfois de stress chronique, on va avoir une baisse de production de notre surrénale, de notre DHEA. Et c'est là que ça se joue. Quand on a toujours beaucoup de cortisol et plus assez de DHEA pour antidoter, pour neutraliser les effets toxiques et pervers du cortisol, c'est à ce moment-là qu'on va risquer le plus de passer en burn-out. À tel point que on dispose de marqueurs biologiques. Hein. Alors, on peut doser par exemple ce cortisol dans la salive. C'est un très bon milieu pour doser ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre corps. Et on peut doser la DHEA. Et on peut mesurer ainsi l'équilibre entre les deux. Et quelques semaines ou quelques mois avant de passer en burn-out, on voit clairement une chute de la DHA.
Ah oui.
Et donc, c'est prédictif. Et le rapport entre cortisol et DHA peut, pour un thérapeute, annoncer de la zone rouge. On dit, attention, là, il faut vraiment, vraiment, vraiment lever le pied. Il faut tout faire pour ne pas passer en burn-out. Le burn-out, pour moi, c'est un peu comme une fracture. Tant qu'on n'a pas le tibia cassé, on n'a pas le tibia cassé. Mm-hmm. Mais le jour où c'est fracturé, c'est d'un instant à l'autre. Les gens qui ont un burn-out, ils disent, je me suis réveillé le lundi matin et crac, je suis rentré chez moi et depuis, je suis pas ressorti. Il s'est passé quelque chose ce jour-là à 9h50. Voilà. C'est vraiment un moment particulier, comme une fracture de jambe. Hein. Alors, et ça, on peut un petit peu l'anticiper, même beaucoup, hein, c'est pour être très clair, avec ce rapport cortisol-DHEA, mais aussi la mélatonine, hein, d'ailleurs, joue un rôle important.
Et certains parlent d'un triangle critique, cortisol, sérotonine et mélatonine. Est-ce que vous pouvez détailler ces interactions et comment la neuronutrition peut contribuer à restaurer l'équilibre ?
Alors, c'est tout à fait ça. Je ne connaissais pas ce terme de triangle, mais c'est bien vu. La balance cortisol-DHEA, je pense que ça, c'est bien compris aujourd'hui. C'est une valeur sûre, hein, publiée dans énormément de revues de très bonne qualité. Mm-hmm. La mélatonine, comme je disais tout à l'heure, c'est un neurotransmetteur extrêmement complexe qui joue un rôle important à la fois dans la régulation des horloges biologiques. Et ces horloges biologiques, c'est vraiment le chef d'orchestre finalement de tous nos rythmes biologiques, de toutes les grandes fonctions du corps. Qu'est-ce qu'il se passe dans le passage du stress chronique, compensé, vers le burn-out ? Eh bien, l'un des grands mécanismes, c'est l'incapacité à nos horloges biologiques d'anticiper, de programmer, de prévoir ce qu'il va se passer dans quelques heures, dans quelques jours. Cette perte de capacité chronobiologique, c'est vraiment une signature que l'on considère aujourd'hui comme étant majeure et très impliquée dans le burn-out. Donc, en effet, dès qu'on manque de mélatonine, eh bien, comme elle joue un peu le rôle du chef d'orchestre, eh bien, ce chef d'orchestre, imaginez un orchestre symphonique où tous les instruments de musique jouent le même tempo. Si le chef d'orchestre s'en va, eh bien, les violons, le piano, les cymbales, vont jouer n'importe quoi. Ça sera une cacophonie. C'est ce qui se passe. Le stress chronique, déjà, nous met dans une situation très dangereuse du cortisol, pas assez de protecteur DHEA. Le chef d'orchestre s'en va, les horloges en font qu'à leur tête, hein, et donc à ce moment-là, c'est une cacophonie. Et c'est ça qui se passe, trouble du sommeil, perte de la régulation hormonale, parce que notre mélatonine, c'est un grand régulateur des hormones, c'est un grand régulateur des autres neurotransmetteurs, c'est un puissant antioxydant. Enfin, il a tellement de fonctions que je ne peux pas les énumérer toutes, sinon vous allez me gronder parce qu'on va dépasser une heure et demie. Mais dès qu'on manque de mélatonine, eh bien, on observe un troisième grand risque, en effet, de passer en burn-out. Pour ça, c'est bien l'idée d'un triangle, en effet. D'ailleurs, je repense maintenant, là, en en parlant, à des études qui sont intéressantes, qui mesurent aussi le rapport entre le cortisol et la mélatonine nocturne, et qui ont mis en évidence que quand on a un excès de cortisol et un manque de mélatonine, finalement, c'est aussi un indicateur de troubles, on va dire, comportementaux, et notamment de burn-out.
Si vous deviez donner trois repères simples, mais scientifiquement robustes pour préserver l'équilibre neurochimique au quotidien, ce serait quoi, docteur ?
Ah, vous adorez les questions pièges. C'est bien. Alors, la première, j'avais envie de vous piéger tout à l'heure parce qu'avant la pause, on m'a dit surtout ne bougez pas. Et j'ai pas fait ça, j'ai bougé. La première chose que j'ai envie de faire, c'est surtout de bouger. Mmh. Eh bien, première chose pour vivre bien, il faut bouger. La nutrition, c'est important, mais la nutrition, ça inclut l'activité physique et de bouger régulièrement. Ne pas être sédentaire, s'étirer régulièrement, bouger, s'activer, faire un peu d'activité physique aussi, mais bouger tout au long de la journée, par exemple des exercices physiques ou du yoga. Deuxième conseil, c'est l'assiette, bien évidemment, l'assiette de neuronutrition. Prendre soin de son alimentation saine et durable, parce que si on mange bien, eh bien, méditerranéen par exemple, mais on va éviter des neurotoxiques, on va apporter tout ce dont on a besoin pour le cerveau. Ça, c'est mon deuxième conseil. Et le troisième, est-ce que vous l'avez deviné, Ombeline, parce que ça fait partie des trois piliers des recommandations de nutrition, non pas encore en France ou en Belgique, mais en Suisse déjà. C'est
manger du chocolat.
Presque. Non. C'est donc l'alimentation, l'activité physique et le respect des horloges biologiques. Ce qu'on appelle aujourd'hui la chrononutrition. En chrononutrition, pour moi, j'inclus le sommeil. Vraiment avoir un très, 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 très bon sommeil. Considérer le sommeil comme étant vraiment une pierre angulaire de notre santé physique et mentale. Ça, c'est très important. Mais au-delà du sommeil, c'est vraiment les rythmes biologiques. Savoir que le matin, il faut se lever et être plutôt actif avec de la lumière. On a beaucoup parlé de la lumière au cours de nos émissions. Et le soir, se calmer, avoir un rituel de calme, d'endormissement, prévoir des moments de détente, de relaxation, voire de méditation, de cohérence cardiaque. Et surtout, la nuit, être dans l'obscurité.
Voilà. Et pour les professionnels de santé qui nous écoutent, quels outils, questionnaires, bilans fonctionnels sont les plus fiables pour évaluer les neurotransmetteurs sans tomber évidemment dans la surinterprétation?
Alors c'est intéressant parce que depuis plus de 40 ans, moi je me suis avec des collègues mais vraiment beaucoup amusé à créer un petit questionnaire d'évaluation des troubles des neurotransmetteurs. Alors c'est tout simple, hein, ça reprend les symptômes cliniques les plus fréquemment observés statistiquement. Ce questionnaire n'est absolument pas validé scientifiquement. Il n'a pas fait l'objet d'études cliniques sur 10 000 personnes. Mais voilà, 40 ans d'expérience avec des centaines et des centaines d'élèves que j'ai pu avoir, enfin, même des milliers d'élèves que j'ai pu avoir au diplôme à Dijon ou au sein de l'Institut SIN. Bon, on a recueilli les avis des thérapeutes qui l'utilisent. Et donc, un questionnaire fonctionnel des neurotransmetteurs, c'est très, très utile. En tout cas, ça nous donne une checklist, des petits signes évocateurs auxquels on ne pense pas toujours et que le patient ne nous donne pas toujours. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est évidemment d'observer l'assiette. Regardez comment je mange. Si je mange beaucoup de produits ultra transformés, il y a de grandes chances que je sois plus à risque. Alors que si je mange très, très sain, très méditerranéen, ben je mets moins de risques, hein, bien évidemment. Et alors, un petit troisième, je ne vais pas parler de biologie parce que ça, c'est très particulier, même si vous avez compris qu'il y avait des marqueurs. Non, je parlerai des questionnaires de sommeil. Voilà, il y a un agenda de sommeil, donc par exemple, observer les heures de coucher, d'endormissement, la qualité du sommeil nocturne. On a même des petits objets connectés qui sont pas si mal que ça aujourd'hui hein, pour vérifier si on a une bonne profondeur de sommeil ou on n'a pas trop de réveil nocturne. Eh bien, avec ça, avec les petits symptômes cliniques, hein, même s'il faut le prendre ça avec beaucoup de prudence, encore une fois, avec l'alimentation et avec le sommeil, je pense que c'est un bon trio. Mais je vous dis, je vais tout de suite quand même rappeler que tout ça, ça reste du conseil professionnel, hein, et que les professionnels de soins, de santé formés, sont compétents pour faire ce bilan, on va dire, hein, plutôt que la diagnostic, c'est plutôt un bilan dont je parle ici.
Merci beaucoup, docteur Coudron. Dans Neuronutrition, on aura le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine. À bientôt.
À très bientôt.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.